Bienvenue dans le troisième épisode du documentaire Vécu d'IVG, créé par moi, Margot Huille, et le planning familial Sud-Ardèche. C'est parti ! En tant que femme fertile, il a toujours existé dans un coin de ma tête que si je tombais enceinte et que je n'en voulais pas, je pouvais faire une IVG. C'était là, une possibilité, mais sans détail. Je n'avais aucune idée de la démarche à suivre pour me faire avorter. Les femmes que j'ai rencontrées ont parfois aussi été dans ce cas. On va les écouter raconter leur démarche vers l'IVG et leur rencontre avec les différents professionnels de santé. Et on verra ce que ces parcours disent sur la manière dont est perçue l'IVG dans notre société. Bon, mais pour arriver à se lancer, il faut d'abord gérer ses appréhensions. Elles peuvent être très variées, alors je vous laisse en écouter quelques-unes.
Je pense que j'étais dans un rejet de mon corps. Je prenais pas en compte, je pense, les symptômes que je pouvais ressentir. Il me semble que j'ai, par exemple, pas mal fait la fête. Du style, non, ça n'existe pas, je ne suis pas enceinte, je ne vais pas faire attention à ma consommation d'alcool. Plutôt essayer d'oublier ce qui est en train de se passer, quoi. Mais bon, évidemment, ça remonte à la surface. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal aussi à comprendre pourquoi ça me mettait, et ça me met encore dans un état émotionnel compliqué. Peut-être parce que j'ai tout fait pour bien enfouir tout ça.
C'était un peu, genre, je commençais à prévoir, à projeter sur comment ça allait être les prochains temps, et ça me faisait flipper. J'avais la boule au ventre de ouf de me dire à quel point je vais garder une mémoire chimique de ce truc-là, tu vois, à quel point mon corps il va payer par la suite de cette nouvelle pilule qui, a priori, est quand même deux fois plus trashose qu'une pilule du lendemain.
Pendant longtemps, j'étais prostrée, j'étais trop mal physiquement, j'étais incapable, je passais mes journées au lit, je faisais rien. Jusqu'au jour où sa belle-sœur, elle vient de me dire, en fait, c'est maintenant qu'il faut que t'agisses. Je l'aurais fait de toute façon, mais c'est juste que j'arrivais à rien faire, en fait, j'étais capable de rien faire.
Alors une fois prête, par où commencer? Pour accéder à l'IVG, il faut avoir fait une prise de sang pour confirmer la grossesse, et une échographie de datation, qui est très souvent faite, mais n'est pas obligatoire. Donc ça nécessite généralement d'aller voir un ou une médecin qui prescrit la prise de sang, puis d'aller dans un laboratoire d'analyse pour la faire. Ensuite, l'échographie peut être réalisée par différents professionnels, des gynécologues, des sages-femmes ou des échographes. Bon voilà, ça a l'air simple dit comme ça, mais attendez d'écouter ce qui va suivre.
Au niveau des marches, là, j'ai été complètement paumée. Donc à part me dire « je me dirige vers une grande ville pour pouvoir avoir accès » vraiment à des trucs, parce que passer deux coups de filet à la campagne, j'ai vite vu que c'était pas possible. Même toi, avec toute ta tête, t'es là, mais j'arriverai pas. J'avais peur. Je savais pas par où attaquer. Et je me suis vite rendue compte que c'était une galère, quoi. Que des personnes pour qui c'est compliqué de passer des coups de fil, que c'est compliqué de prendre des rendez-vous, que c'est compliqué de se déplacer, elles se retrouvent avec des enfants. Parce que moi, j'ai une voiture, je parle français. Je peux me déplacer, enfin, je suis autonome, j'ai le permis, j'ai 5 balles en poche, j'ai la CMU. En fait, oui, j'ai accès à l'avortement en France, mais même là, dans la prise de rendez-vous, j'ai été déjà, moi, avec tous ces privilèges-là, découragée. Donc en fait, je me dis, oui, il doit y avoir aujourd'hui en France, mais nombre de nanas qui se retrouvent en fait avec des enfants.
On vient de le voir, il n'est déjà pas évident d'obtenir toutes les informations pour savoir comment et où avorter. Mais en plus, même une fois que le parcours est balisé, on va se rendre compte qu'il est semé d'embûches.
C'est quand même le parcours du combattant. Je découvre que je suis obligée d'aller à Aubenas, mais pour moi, Aubenas, c'est loin. Je me sentais hyper seule, je trouvais que c'était dingue compliqué d'aller faire tous ces kilomètres. Après, je découvre que ça se passe à la maternité. C'était un deuxième choc. Même si tu sais que ça se passe comme ça, c'est quand même lourd à vivre, en fait. L'avoir vécu plusieurs fois, tu te dis non, mais j'ai pas à me justifier, j'ai envie d'avorter, point. Je vais pas revenir dans 15 jours. La seule chose que t'as envie de savoir quand tu fais tes démarches, c'est à quel moment ça va s'arrêter, en fait. Donc ça, c'est long, en fait. Du moment où t'achètes ton test de grossesse et du moment où tu vas vraiment avoir vécu ton IVG, c'est hyper long. Un espace de stress inutile. Et donc ça, c'est même si tu l'as vécu une fois, deux fois, tu sais comment ça marche, tu t'habitues pas à ce truc-là, en fait. Enfin, moi, je me sentais révoltée.
C'est super parce que ce témoignage reprend toutes les problématiques de l'accès à l'avortement en milieu rural. On va reprendre ensemble. En premier, elle parle de la distance. À la campagne, ou du moins en Cévennes, on manque de professionnels de santé. Donc dans ces conditions, constituer son dossier pour avorter signifie souvent faire beaucoup de kilomètres pour rejoindre les différentes villes où on a pu obtenir un rendez-vous. Ensuite, elle parle du fait d'être confrontée à la maternité à laquelle on veut échapper. Il n'y a souvent pas de lieu dédié à l'IVG, que ce soit pour les consultations ou l'acte. C'est le même que celles qui poursuivent leur grossesse, en maternité. L'IVG est donc invisibilisé. Et ça, c'est au moins désagréable pour les personnes qui veulent avorter.
J'ai débarqué dans la salle d'attente où c'est blindé de posters roses et d'affiches de bébés, de futures mamans avec leur ventre. Et toi, t'as l'impression d'être une tache hyper sombre. Je me sentais ultra décalée. Je me suis sentie un peu mal même carrément dans la salle d'attente.
Enfin, elle parle de la temporalité. Souvent, c'est long. Il y a trop d'attentes, trop de professionnels à aller voir. Ces démarches sont lourdes parce que lorsqu'on veut interrompre une grossesse, on a envie que ça se fasse le plus vite possible.
T'es déjà ici dans les Cévennes. Je me tourne vers le premier hôpital le plus proche. Et là, mais alors presque on me rionnait de... mais vous voulez avorter ici? Mais bien sûr que non, ça, c'est impossible. Là, vous allez avoir des disponibilités dans 3 mois.
Jusqu'en 2016, il y avait une semaine de réflexion obligatoire pour être bien sûr de vouloir pratiquer cette IVG. Elle était souvent subie. Maintenant interdite, elle semble être encore appliquée arbitrairement par certains professionnels.
Je réussissais à cibler les trucs qui n'allaient pas en fait dans le déroulement de mon IVG. Enfin, avant, il y avait la semaine de réflexion et ça a été retiré de la loi et en fait, sous couvert de c'est trop tôt, ils la maintiennent, en fait, cette semaine de réflexion. Ils disaient que l'embryon était trop petit et que du coup, ça allait pas se détacher. Et toutes mes copines qui ont avorté, ils ont dit la même chose. Et c'est pour ça aussi que cette semaine de réflexion, là, qu'ils m'ont imposée, c'était relou, quoi, parce que j'étais encore dedans, quoi, dans un entre-deux bizarre. Et j'avais juste envie, c'est bon, on le fait, comme la paperasse administrative à faire, c'est relou, on s'y met une bonne fois pour toutes, et puis après, c'est terminé, quoi.
En 3 semaines, il fallait que ce soit tout bouclé, sachant qu'il y avait le temps de réflexion d'une semaine. Moi, j'avais la pression, c'était sûr que j'en voulais pas. Le médecin m'a demandé d'aller faire des prises de sang, mais puisque j'étais étudiante à Lyon, il fallait aussi que j'aille en cours. Il y avait le rendez-vous chez le psy, le rendez-vous pour l'échographie. C'était extrêmement stressant parce qu'il fallait aller de plus en plus vite, enchaîner les trucs entre Lyon, l'Ardèche.
En fait, dans ce parcours, on se sent souvent ballotté. On ne maîtrise ni les lieux, ni les délais, alors que pendant ce temps, il faut maintenir son quotidien, continuer à travailler, à étudier, à s'occuper de ses enfants, comme si de rien n'était. Et par-dessus tout, on entre dans un univers médical où souvent on n'a ni le vocabulaire, ni le droit au chapitre. Mais en plus viennent souvent se rajouter des rapports conflictuels avec les professionnels de santé. Il est plutôt fréquent d'être mal accueilli, mal accompagné, voire de subir des violences de leur part. En milieu rural notamment, il n'est pas toujours aisé de trouver des professionnels qui sont là pour nous aider.
Genre en fait, t'as pas l'impression d'aller dans un camp d'alliés, t'as l'impression d'aller face à un truc où tu vas quand même devoir te battre un petit peu et genre rester sur la défensive et faire gaffe. Et du coup, je m'étais dit, j'ai envie qu'on parle de l'opération et voir si c'est possible de le faire. Et en fait, arrivé là-bas, j'ai perdu mes moyens parce que j'étais un peu en panique et que déjà, je me blindais contre le fait que je suis dans une salle d'attente avec que des femmes enceintes. Puis du coup, elle a fait ce truc de l'avortement, ben ça va être par médication. Ok, qu'on en finisse au plus vite, médicament, vas-y, donne-moi le médicament. Et du coup, j'ai même pas posé cette question qui me tenait à cœur de savoir s'il n'y avait pas moyen de faire autrement que par des hormones. Dans ce moment de faiblesse et de vulnérabilité, tu te rends pas compte qu'il y a des gens en face qui sont presque en train de te mentir pour pas te laisser le choix parce qu'ils ont un truc qui les arrange ou qu'eux, ils peuvent juste faire ça. Du coup, ils vont pas commencer à te dire qu'il y a plein de possibilités mais qu'ils en sont pas capables. Du coup, t'as pas les outils aussi pour dire mais attendez, moi j'ai pas envie de faire ça comme ça.
Je savais pourquoi j'avais pas envie d'avoir un enfant à ce moment-là. Je voyais pas pourquoi on devait me poser des milliards de questions. C'était choquant à chaque fois. La première, je veux bien. C'est la première fois que tu vis ça, tu sais pas vers quoi tu vas. Mais bon, après, la deuxième, la troisième, tu dis non, mais en fait, voilà, j'ai eu un accident, point. Ça rajoute à la culpabilité. On vient te tricoter, là, pour savoir si t'es bien sûr. Tu te sens jugé aussi à cet endroit-là. Juste, soyez sympa avec les femmes.
Pour moi, par exemple, c'était carrément clair que je gardais pas cet enfant. Quand ils m'ont proposé un accompagnement, j'ai dit bah oui, carrément. Mais en fait, le rendez-vous, c'est Eux, ils pensent que nécessairement, on est dans une position à se dire « est-ce que j'avorte ou pas ?» Et en fait, la personne en face « m'écoutez pas, vous avez décidé d'avorter, ça c'est ok pour vous. » Bah, en gros, c'est réglé. Comme si les personnes, ça va à ta place. On m'a beaucoup sorti ce truc que bah, sûrement ça allait pas parce que je culpabilisais de mettre fin à une vie, etc. Mais moi, c'était pas du tout mon problème, quoi. Je me sentais vraiment, en gros, infantilisée, genre, t'es pas du tout capable de faire tes choix par toi-même et tout ça.
J'ai relevé beaucoup de mauvaises expériences lors de l'échographie de datation. En soi, une échographie intravaginale est intrusive et peu agréable. Mais en plus, elle peut représenter un moment où la personne qui consulte peut être particulièrement vulnérable, puisque c'est là où le ou la praticienne va observer ce qu'il y a à l'intérieur de l'utérus. Légalement, la vision de l'échographie ne doit pas être imposée. Lorsque l'échographie est montrée sans consentement, cela peut constituer une violence et être très mal vécu.
L'échographie de datation. Je suis tombée chez une échographe qui a pas demandé quoi que ce soit, qui m'a fait l'échographie en me montrant le bébé. Ça, c'était vraiment horrible comme truc. Et après, quand j'ai expliqué que j'en voulais pas, pareil, elle m'a un peu chassée. Ça a été fait en 10 minutes au suivant. Ah, c'est pas agréable quand même quand on veut avorter. On a quand même pas forcément envie de se dire qu'on est en train de tuer un enfant ou quoi que ce soit. Et du coup, qu'il y ait des personnes avec ce genre d'avis qui sont là en train de t'expliquer que tu ferais peut-être mieux de le garder quand même sans penser à tout le reste. Ouais, c'est brutal quand même.
À l'hôpital d'Alès, on a vu un gynécologue horrible, déjà d'une froideur, qui me parle d'une manière hyper condescendante. Je me souviens très bien qu'il m'a appelé mon enfant. J'étais choquée en fait, mais à ce moment-là, c'était vraiment la première fois que je faisais face à tout ça, donc je disais rien, je faisais rien. Il me fait l'échographie et il me dit que je suis obligée de me faire opérer. Dans mon idée, l'IVG médicamenteuse était moins pire. Et je savais que j'étais dans les temps pour faire l'IVG médicamenteuse. Ça l'a vraiment hyper fort énervé que je le remette en question. Et il m'a dit, moi je vous dis que ça doit être l'opération, rendez-vous à telle date et tout. J'ai dit, non, mais moi je viens pas. Le mec, il m'a envoyé mon échographie. Il dit, et tenez ça, moi j'en ai rien à faire. Et du coup, je me suis retrouvée avec l'échographie. Personnellement, c'était pas grave pour moi de la voir, mais je trouvais ça super maladroit quand même de montrer une échographie. Et j'étais déjà dans une grande fragilité. Cet événement a été super violent pour moi en tout cas. C'est surtout pour ça que j'ai mal vécu l'avortement, tout l'accompagnement médical qu'il y avait eu autour.
Je suis allée faire l'échographie à Alès. Et donc après, je suis allée à Montpellier avec mon échographie et ma prise de sang, voir le gynéco. Et juste, il a regardé mon écho et il me dit « ça va pas du tout ». C'est écrit qu'il n'y a pas d'activité cardiaque. Et il me dit « c'est pas la même démarche, quoi, si c'est une grossesse arrêtée, en fait ». Et là, ça m'a mis un coup de me dire « ça se trouve, en fait, il est déjà mort ». Ça m'a fait paniquer, quoi. Enfin, j'ai eu peur, quoi, qu'il y ait des problèmes ou, enfin, je sais pas où, comment ça allait se passer. Et puis, il me dit, puis en plus, il n'y a pas la taille, donc pour la datation, l'échographie avait été n'importe comment. Donc, il me refait une écho et il me dit, ah bah non, c'est pas une grossesse arrêtée, il y a bien une activité cardiaque et tout. Enfin, c'est incroyable d'aller faire une échographie chez une personne qui est échographiste. Tu lui demandes une écho de datation et qu'elle te mette pas s'il y a une activité cardiaque et qu'elle mesure pas le fœtus, qu'elle mesure que la poche. Du coup, c'est quoi son job, en fait?
Et du coup, l'hôpital de Benin, la personne qui m'a prise en charge, c'était une interne, qui était super sympa, très attentive à choisir ses mots, ne pas me culpabiliser. Pour le coup, avec elle, je me suis sentie super bien. Quand elle a fait l'échographie, elle a tourné l'écran pour pas que je le voie, et c'est moi qui lui ai demandé. Enfin, j'ai trouvé ça quand même assez chouette d'avoir le choix.
Bon, il y a quand même des manières douces de faire des échographies de l'utérus. D'ailleurs, cet examen ne sert pas seulement à la datation de la grossesse. Il permet aussi de voir comment elle se déroule. Et parfois, on se rend compte qu'il s'agit d'une fausse couche. C'est lorsque la grossesse s'arrête d'elle-même. On en parle très peu, mais c'est loin d'être exceptionnel. Environ 15% des grossesses finissent ainsi. Dans ces cas-là, la procédure devient encore plus longue et pesante, entre autres à cause du corps médical, qui peut être très peu attentif à l'implication émotionnelle des informations qu'il nous donne à ce sujet.
Un des nombreux médecins que j'ai été voir m'a annoncé que c'était une fausse couche. La première échographie que j'ai faite, il m'a dit « l'embryon n'est pas vivant, il n'y a pas d'activité cardiaque, mais je ne suis pas sûre ». Et puis j'étais à la clinique où on m'a clairement dit « il faut que vous attendiez que l'embryon s'en aille de lui-même ». Je l'ai très très mal vécu, j'arrivais à rien manger, j'ai perdu beaucoup de poids, j'avais de l'énergie pour rien. Mon copain qui n'était pas du tout présent Après 2 semaines, j'ai fait en fait j'en peux plus. Donc là, j'ai trouvé la gynécologue à Aubenas qui m'a dit il faut qu'on intervienne nous en fait, c'est horrible ce que vous vivez. Elle me disait quand même c'est vrai que s'il était parti tout seul, bah, il n'y avait pas d'intervention chirurgicale, donc pour votre corps c'est moins violent. Mais vous devez quand même être entouré. Et donc finalement, on a pris rendez-vous. Et c'était anesthésie générale une semaine après.
Je suis allée à l'hôpital, à Aubenas, donc écho de datation. Je trouve rien. Donc elle me dit, refaites une prise de sang et on refait une écho. J'y retourne 2 jours après, pareil, toujours rien. Et là, en fait, ils ont commencé à suspecter une grossesse extra-utérine. Et à partir de là, ça a été un mois d'emmerde. Tous les 2 ou 3 jours, je suis allée à Aubenas faire des prises de sang et une écho parce que ne peuvent rien faire tant qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. En fait, moi, de toute façon, je voulais faire une IVG, mais ça a été hyper long. Je me sentais un peu trimballée parce que j'avais pas beaucoup d'informations. J'étais pas bien, mais au bout d'un moment, en fait, l'œuf a fini par apparaître sur l'écho et en fait, il était très bien placé, il était au milieu de mon utérus, et c'est juste que c'était un œuf qui n'était pas viable.
Même si je sais que je veux pas d'enfant, d'avoir vécu le truc de « mais mince, là, ça a pas marché », et ben du coup, je me suis dit « ah ouais, merde, ça m'a traversé l'esprit ». Juste sur cette question de pouvoir avoir le choix, en fait, un jour d'en avoir ou non.
Dans ce choix d'IVG où on sait que, enfin, de toute façon, on va avoir une IVG, il y a notre vision par rapport à notre corps de si ça se passe bien et qu'on se sent bien, bah ça nous rassure. Et là, dans vos trucs où effectivement vous avez eu des fausses couches, de se dire ah ça a quand même été mal placé, on s'inquiète quand même du mauvais fonctionnement, même si on est contente au final parce que c'est notre but que ça s'arrête. Il y a quand même une crainte d'un dysfonctionnement corporel parce qu'on reste sensible en fait.
Au regard de ces mauvaises expériences au contact des professionnels de santé, des femmes ont cherché des alternatives. Et elles existaient déjà bien avant la médicalisation de l'avortement, puisque de tout temps, les femmes ont régulé les naissances. Par rapport à un corps médical qui infantilise, qui n'informe pas, qui juge, voire qui maltraite, cette prise d'autonomie permet une réappropriation de son corps. Sans pour autant abandonner l'idée d'une IVG médicalisée, je vous laisse écouter ce qu'a décidé de faire une des femmes que j'ai enregistrées.
Je m'étais pas mal renseignée après le premier avortement sur des manières alternatives d'avorter. Et du coup, je savais qu'il y avait pas mal de plantes qui sont utilisées dans des cadres avortifs et qu'il y a quand même un truc à gérer au niveau des doses et tout ça. Mais ce que je savais, c'est que, par exemple, entre autres, le persil fait partie des plantes qui sont connues pour déclencher des règles quand elles ont trop de retard. Et à côté de ça, je savais que dans l'idée du tonus utérin, si tu veux évacuer quelque chose, je savais que le citron, par justement la vitamine C, stimulait le tonus du corps, et notamment le tonus utérin. Et du coup, en parallèle de commencer à prendre des rendez-vous, j'ai commencé à boire du persil et du citron en mode gros iced tea. Et je rentre dans une démarche d'ultra-activité pour évacuer quelque chose. Et du coup, j'allais à la rivière tous les jours. Je faisais des brasses, mais genre à m'en écarteler les jambes, à faire des jumping jacks. Tu te mets un peu en squat et tu sautes en l'air. Un truc qui me paraissait assez logique, juste par cette image de quand t'es enceinte, il y a quelque chose qui va chercher à faire cocon pour protéger quelque chose. Et le but pour avorter, ben, c'est quand même de le stimuler parce qu'il y a quelque chose à évacuer.
Il y a quand même des fois où tout se passe bien, rapidement et tout, avec des pros qui bossent avec empathie et efficacité. Mais même quand j'entends que les personnes sont contentes, en fait elles le sont pour des comportements qui devraient être normaux, être respectés et informés. Les femmes ont tellement l'habitude de subir des violences verbales et physiques au contact du corps médical que lorsqu'elles en sont exemptées, c'est le Graal.
Voilà, la personne que j'ai eue au bout du fil était hyper soutenante par rapport à ce qui m'arrivait, c'était super. On m'a redirigée vers un médecin qui fait l'IVG médicamenteuse. Je me suis sentie bien, en fait. Je ne me suis pas sentie jugée. Je sentais qu'il me parlait vraiment comme à quelqu'un de responsable, donc c'était super. Et puis, il m'a bien expliqué comment ça allait se dérouler, en me mettant en confiance, en m'expliquant les risques, mais sans me dire que c'était horrible pour mon corps. Et en fait, ça s'est passé très rapidement. J'ai même pas eu la semaine de réflexion. Je l'ai su. Le lendemain, j'ai été chez le médecin. Quelques jours après, je revenais chez lui. Il me donnait le premier médicament.
Début du confinement, donc on était coincés à Lyon. Mon médecin en traitant toujours en Ardèche. Donc je me suis dit vite, on fait un rapatriement en Ardèche. Et ça s'est passé beaucoup plus vite que la première fois. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis dit, ah, allez, c'est reparti pour un tour. ça va être la galère. Et en fait, je suis allée chez le médecin a appelé l'hôpital, l'hôpital m'a rappelé dans l'heure pour me donner un rendez-vous juste après. En 2 heures, j'avais rendez-vous chez l'échographe qui m'a fait l'échographie directement, qui m'a donné une date pour l'IVG par voie médicamenteuse. Ça s'est enchaîné très 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 rapidement.
Je me suis dit, je vais pas attendre non plus, parce que sinon je vais me retrouver avec un autre enfant. Donc du coup, bah voilà, faire les démarches par rapport à ça. J'avais cette expérience d'avoir été en contact avec des sages-femmes par ici, qui accompagnent super bien, informent aussi super bien, sont pas du tout dans le jugement. Donc moi, je me suis dit, j'appelle une des deux sages-femmes. Et j'ai trouvé ça mais tellement génial, en fait. Elle, elle était là pour ça. Je me sentais moins seule. Je me disais genre, ok, si ça va pas ou s'il se passe un truc, je sais qu'il y a une personne qui va être là pour moi.
Dans cet épisode, on a parcouru 2 types de problématiques. Des procédures qui rendent l'accès à l'avortement difficile et des discriminations produites par les professionnels de santé. Additionnées, elles démultiplient les violences que l'on peut subir pendant cette démarche. Les procédures font que l'on doit rencontrer différents praticiens, ce qui demande déjà une certaine organisation. Et en plus nous oblige à nous confronter à des personnes qui seront potentiellement contre notre démarche, mais dont on a foncièrement besoin. Ce qui nous place dans une situation de dépendance qui peut être très désagréable. Il s'agit d'une question éminemment politique et féministe. En France, c'est 1 femme sur 3 qui va avorter dans sa vie. C'est donc une pratique courante, qui doit donc être prise en charge correctement, au-delà des positionnements idéologiques que l'on peut avoir dessus. Parce que les femmes ont toujours avorté et continueront à avorter. Faire une IVG est déjà suffisamment une expérience désagréable. On se serait déjà bien passé de ces difficultés supplémentaires. Et je suis certaine que si le milieu médical simplifiait et effectuait correctement les procédures d'IVG, elles seraient bien mieux vécues par les personnes qui y ont recours. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Dans le prochain épisode, on verra comment se passe l'acte d'IVG et surtout comment il est vécu. À bientôt.